Radio de la Paix, il est 7 heures. Le journal du 7 heures. Linda Christelle Ballier.
Bienvenue à tous dans cette édition au sommaire de l'actualité. Le projet de loi relatif à la révision de la Constitution a été adopté à la majorité des membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale. Réunis hier mercredi, les 9 députés de l'opposition qui se sont abstenus dénoncent par contre le droit d'amendement que ce projet donne au président de la République. Et à partir de cette année, le service civique doit pouvoir traiter 14 000 jeunes en leur inculquant un bon comportement face à des passifs de la vie comme l'échec scolaire et des fléaux comme la drogue. D'après Touré Mamadou, directeur général de l'Office du service civique national, invité hier mercredi de la tribune d'échange « Tout savoir sûr ». Dans l'actualité sur le continent, confronté à une grave crise humanitaire, les Nations Unies promettent un appui au Tchad. Et puis la revue des titres de vos journaux sera assurée ce matin par Jean-Claude Comé. Et en toute fin d'édition, l'invité de la rédaction est le sociologue et enseignant-chercheur à l'Université de Boaké, Dr Séverin Kwame. Il s'agira des élections locales du 2 septembre prochain. Eh bien, ce sujet sera au cœur de l'entretien mené par Soro Adams en toute fin d'édition. Voilà pour nos grandes lignes. Madame, Monsieur, bonjour. Suite à la prise en considération du projet de loi portant révision de la Constitution par le Parlement réuni en Congrès le mardi 18 juillet dernier, la Commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale a planché sur ce projet hier mercredi. Et après plus de 6 heures de débat, parfois houleux, débat qui a été conduit de 11h à 17h, le projet de loi a été adopté à la majorité des membres de la Commission, 25 pour et 9 abstentions. Les députés de l'opposition qui se sont abstenus dénoncent le droit d'amendement que ce projet donne au président de la République. Écoutons le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme après l'adoption du texte en commission.
Vous vous souvenez que le 25 avril dernier, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans son adresse au Parlement réuni en Congrès, avait annoncé donc la transmission d'un projet de loi portant révision de la Constitution. L'exercice de ce matin donc a consisté, pour le représentant du Président de la République que je suis, de procéder à l'examen avec les honorables députés membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles du projet de loi de révision constitutionnelle qui principalement portait sur les articles 90, 94 et 107 de la Constitution. Il s'agissait, en ce qui concerne ce projet de révision, de réinstaurer les deux sessions qui avaient été supprimées en 2016. Aujourd'hui, donc, on retourne aux deux sessions. La première session ira de janvier à juin et la seconde session d'octobre à décembre. Il faut ajouter à cela que, en plus de l'instauration des deux sessions, qui a eu pour incidence donc de modifier l'article 90 de la Constitution, on a instauré une flexibilité au niveau du Parlement qui consiste dans le fait que à la demande du président de la République, le Parlement pourra se réunir en Congrès pour réaménager le calendrier des sessions. C'est quelque chose de fondamental. L'article 107 a permis d'étendre le droit d'amendement au président de la République. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le droit d'amendement est un droit dérivé du droit d'initiative. Le président de la République, avec les députés ayant l'initiative de la loi, il aura donc dorénavant un droit d'amendement qui va lui permettre donc d'amender les textes avant leur adoption par le Parlement.
À l'instant, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Sansan Kambili. Élections municipales et régionales du 2 septembre. Le délai du dépôt des candidatures prendra fin le dimanche prochain, c'est-à-dire le 23 juillet 2023, au lieu d'hier mercredi comme prévu initialement, a déclaré le porte-parole de la Commission électorale indépendante au cours d'un point presse hier mercredi. Écoutons Émile Ebrotier à ce sujet.
La Commission électorale indépendante a rencontré les partis et groupements politiques le samedi 15 juillet 2023 à Abidjan dans le cadre de l'opération de révision de la liste électorale afin d'échanger sur des préoccupations soulevées par certains d'entre eux. À l'occasion de ces échanges, les partis et groupements politiques ont souhaité la prorogation de la période de réception des dossiers de candidature pour les élections des conseillers régionaux et des conseillers municipaux du 2 septembre 2023. Cette demande a été réitérée par plusieurs correspondances en date du lundi 17 juillet 2023 adressées au président de la Commission électorale indépendante. fort de ces requêtes, le président de la commission électorale indépendante a convoqué en urgence une commission centrale extraordinaire afin d'examiner les demandes formulées par les partis et groupements politiques. Ainsi, ce mercredi 19 juillet 2023, après délibération de la commission centrale qui a fait droit à la requête des partis et groupements politiques dont se réclame en règle générale la majorité des candidats aux élections régionales et municipales. Par conséquent, la période de réception des dossiers de candidature pour les élections des conseillers régionaux et des conseillers municipaux du 2 septembre 2023 qui expirait ce mercredi 19 juillet 2023 est prorogée exceptionnellement jusqu'au dimanche 23 juillet 2023 inclus.
Le porte-parole de la commission électorale indépendante, Émilie Brottier, à l'instant. Et justement, ce report par la CEI de la fin du délai du dépôt des candidatures jusqu'au dimanche 23 juillet inclus est salué par le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, son vice-président et député, Tchéidé Jean-Gervais.
Eh bien, on ne peut que s'en réjouir. Le PPSI avait effectivement demandé une prorogation du délai accordé aux partis et groupements politiques pour déposer les dossiers des listes pour les élections locales à venir du 2 septembre. Et la CEI fait droit à notre requête. D'autres partis politiques avaient formulé la même requête. Et donc la CEI a examiné et a jugé du bien fondé de notre requête. Et donc on ne peut que s'en féliciter et saluer cette mesure de la Commission électorale indépendante. Donc je suis heureux que ça se passe comme ça. Nous avons jusqu'à dimanche soir, dimanche en tout cas inclus, pour finaliser. C'est une bonne chose. On va s'efforcer de faire en sorte que tout soit prêt avant le jour J.
À l'instant, le vice-président du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, Tchéidé Jean-Gervais. Autre sujet dans cette édition, le service civique permet à l'État de doter chaque année des dizaines de milliers de jeunes de bonne attitude afin de les préparer à être de bons citoyens face aux différents problèmes de la vie, a fait savoir le directeur général de l'Office du service civique national, invité hier mercredi de Tout savoir sur la tribune d'échange du Centre d'information et de communication gouvernementale, CICG. Écoutons Touré Mamadou.
Depuis l'instauration du service civique il y a 4 ans, 5 ans en arrière, nous traitions 750 à 1000 jeunes maximum par an. Pour cette année 2023, année de la jeunesse, de nouvelles dispositions ont été prises pour amplifier ce dispositif et maintenant c'est 14 000 jeunes qu'on doit pouvoir traiter chaque année. Le premier outil qui est le plus connu, c'est le service civique d'action pour le développement. C'est cet outil qui se fait dans les centres de service civique et qui vise à donner un nouveau comportement. Un bon comportement à nos jeunes qui sont en difficulté, qui sont soit analphabètes, soit en échec scolaire, soit en abandon scolaire, qui sont victimes des fléaux de notre société, l'alcool, la drogue et autres. Le deuxième outil que nous avons, c'est le service national des jeunes. C'est un outil important pour le renforcement civique et citoyen de nos jeunes. Cet outil à deux composantes. Il y a ce qu'on appelle le parcours citoyen. Ça permet de renforcer les capacités de nos élèves. Nous avons un autre outil qui est le campus citoyen. C'est un grand rassemblement de jeunes. 500 jeunes au minimum dans un campus ou dans un centre de service civique à qui, dans le cadre d'un encadrement civilo-militaire, on donne les mêmes valeurs. Les symboles de la République, la connaissance des us et coutumes, l'initiation à des métiers et l'engagement à servir sa communauté. Le dernier outil non moins important, c'est le volontariat et le bénévolat.
Le directeur général de l'Office et du Service civique national, Touré Mamadou, il était au micro de Mata Touré. Paiement de l'impôt conformément au plan stratégique 2022-2025. La Direction générale des impôts renforce à cet effet les capacités de ses agents dans un séminaire qui court depuis le 17 juillet dernier au 23 prochain à Yamoussoukro, d'où nous appelle d'ailleurs notre correspondant régional, Emilia O.
Face aux défis de plus en plus croissants en termes de mobilisation des ressources fiscales intérieures à la hauteur des attentes des autorités ivoiriennes, la Direction générale des impôts s'est engagée dans une dynamique de réforme en se dotant d'un plan stratégique 2022-2025. Un plan au menu de ce renforcement des capacités.
Après un an de mise en œuvre, Il importe que ce plan stratégique puisse faire l'objet d'un suivi et d'une évaluation qui relève de la compétence des points focaux. Mais cela ne peut se faire si les points focaux ne disposent pas des outils nécessaires à la réalisation de cette activité.
C'est pourquoi, de ce renforcement des capacités, la Direction générale des impôts en attend énormément, indique Kone Yaya, représentant du directeur général de cette régie financière.
Mesdames et messieurs les participants, monsieur le directeur général des impôts me charge de vous dire qu'il voudrait vous exhorter à suivre cette formation avec beaucoup d'intérêt et un esprit critique afin de cerner tous ses contours. L'activité que vous allez mener ici est une activité qui est innovante à la DGI.
Le projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens continuera d'accompagner la Direction générale des impôts, rassure Agou Maurice, membre de la coordination de ce projet.
Nous sommes prêts, au nom de la coordination, à étendre nos actions pour, vu que cela concourt, à accroître la collecte.
Rappelons que les recettes recouvrées par la Direction générale des impôts sont passées de 2 147 milliards en 2018 à 3 205,7 milliards en 2022, soit une hausse de 49,3%. Émile Yao, Yamoussoukro, Radio de la Paix.
Et sur le continent, les Nations Unies promettent un appui au Tchad confronté à une grave crise humanitaire. Le Tchad a besoin d'aide pour faire face à cette crise sans précédent. Tel est en substance le message de N'Djamena aux Nations Unies, en particulier concernant les populations locales dont les services sociaux sont débordés ou dont les champs sont occupés par les nouveaux camps de réfugiés. La secrétaire nationale a assuré porter le message des autorités tchadiennes à New York. La revue des titres de vos quotidiens parue ce jeudi est l'affaire aujourd'hui de Jean-Claude Comé que nous accueillons. Bonjour Jean-Claude.
Bonjour Linda, bonjour à tous. Ouf de soulagement pour les candidats retardataires en ce qui concerne les élections locales du 2 septembre 2023. La CEI, la Commission électorale indépendante, vient de leur accorder quelques jours pour le dépôt de leur candidature. Et c'est cette annonce que relaie le Patriote qui titre « Dépôt des dossiers de candidature, encore 3 jours pour les retardataires ». Dernier délai, dimanche 23 juillet 2023, annonce en cœur dernier heurtement de notre voix. La date de dépôt des dossiers prorogés jusqu'au dimanche 23 juillet indique le jour plus et le rassemblement. Prorogation de la date du dépôt des candidatures. Pourquoi la CEI n'avait pas le choix, tant d'expliquer le temps. La nouvelle alliance estime que le problème des difficultés des candidats n'est pas pour autant réglé malgré cette prorogation. Le mandat qui a décidé de vivre l'ambiance à la CEI hier, 19 juillet 2023, qui était la date initiale de clôture des dépôts des dossiers des candidatures, rapporte que les candidats étaient entre angoisse et soulagement. Élection locale 2023, dépôt de candidature, ce que les partis politiques et les candidats indépendants ont fait hier à la CEI, relate également l'expression. Pour ces municipales, des alliances entre forces politiques ont été scellées, notamment concernant le PDC et le PPACI. Le nouveau réveil présente les candidats investis par cette coalition pour l'élection régionale. La nouvelle alliance note que le PPACI et le PDCI sont ensemble dans 25 régions. Le PPACI et le PDCI, dans la dynamique de la victoire, s'est réjoui la voix originale. Fatin Tematin fait remarquer qu'il n'y a pas de consensus entre les deux parties dans 4 régions. Le Matin annonce, lui, que dans le Gord et le Guémont, le PDC et le PPACI se découpent en morceaux. Mais le temps se veut rassurant en indiquant que la décision finale dans cette coalition PPACI-PDCI appartient à Bédié Gbagbo. Le Patriote parle, lui, du PDCI, du PPACI, mais pour dire que des militants de ce parti, de ces deux partis, et également ceux du COGEP, ont opté pour le candidat RHDP de Kumasi. Le Rassemblement estime que dans la foulée, que malgré le bruit des opposants, le RHDP avance. Et révision de la Constitution, le projet a adopté par les députés, c'est l'annonce de Fraternité Matin. Les députés PDCI ont voté l'abstention précise dernière heure monde quand le bélier signale que ces députés PDCI dénoncent et s'inquiètent des violations du président Ouattara. Et puis, Économie, Fraternité Matin propose un reportage pour comprendre la mévente actuelle de la noix de cajou. Merci.
Merci à vous, Jean-Claude Comé, pour votre revue des titres. Madame, Monsieur, le même exercice vous sera proposé dans l'édition de 8 heures. Dernière articulation de ce journal, l'invité de la rédaction est le sociologue et enseignant-chercheur à l'université de Boaké, Dr Séverin Kwame. Il se prononce sur l'ambiance préélectorale dans le pays, interpelle les uns et les autres sur le comportement à adopter, surtout celui des acteurs politiques pour que les élections du 2 septembre prochain se déroulent sans violence. Dr Séverin Kwame, invité de la rédaction de Radio de la Paix, dans un entretien à suivre maintenant.
Bonjour Dr Séverin Kwame.
Bonjour M. Soro.
Les Ivoiriens sont appelés aux urnes le samedi 2 septembre 2023 pour les élections locales, c'est-à-dire municipales et régionales. Vous êtes un observateur très averti de la scène sociopolitique ivoirienne. Et quel regard posez-vous sur ce rendez-vous?
Dans le cadre de la démocratie ivoirienne, je pense que c'est un rendez-vous important, puisque c'est l'un des moments où les populations doivent choisir les personnes qui ont vocation à gérer nos communes et nos régions. Et je pense que dans le processus de décentralisation, c'est des organes clés qui, justement, ont à charge le développement. La grande question maintenant, c'est de savoir si cette joute électorale peut se dérouler sans violence, parce que c'est là où se trouvent justement tous les enjeux, tous les questionnements.
Et pour vous, observateurs, avec ce que vous voyez, un peu d'inquiétude, un peu d'optimisme?
Je pense que en tant qu'Ivoirien, il faut rester optimiste, même si quelques signaux avant-coureurs laissent à penser qu'on a des raisons de s'inquiéter. Mais c'est justement, pour moi, il faut qu'on en arrive à considérer les élections comme un moment banal de notre vie sociale et politique. Mais pour cela, il faut qu'il y ait une culture de la participation démocratique sans violence. Il faut que notre société se dise qu'on peut résoudre nos différends autrement que par la violence. Mais pour ça, il faut un consensus minimum sur les règles du jeu et que les uns et les autres acceptent de jouer le jeu. Parce qu'à la vérité, une élection, ce n'est qu'un jeu. Maintenant, comme le disent trivialement les gens, il ne faudrait pas que les enjeux tuent le jeu. Et c'est là où, justement, on est en droit de se questionner sur les enjeux, aussi bien au niveau national que local, qui peut être susceptible de tuer le jeu en transposant sur le terrain politique de la violence. C'est de ça qu'il s'agit et c'est de ça qu'en tant qu'observateur, on pourrait avoir peur.
Vous avez un peu peur, vous dites?
Un peu peur. Je pense qu'il y a un niveau de maturité politique que les uns et les autres ont. Mais il est clair aussi que beaucoup de contentieux non résolus subsistent. On est dans des régions parfois où les gens se posent des questions. Qui va nous diriger? Est-ce que nos problèmes communautaires ne vont pas être exacerbés au point où finalement c'est ça qui va devenir l'élément sur lequel les entrepreneurs politiques, donc ceux-là qui viennent solliciter notre suffrage, vont bâtir leur campagne? Donc, je pense qu'à un certain moment, il faut rassurer les populations, notamment sur les règles du jeu, qu'il y ait un minimum de consensus, c'est que ceux qui gagnent aient gagné correctement et que ceux qui perdent acceptent que ceux qui ont gagné et attendent des prochaines échéances pour se représenter.
Docteur Séverin Kwame, ces élections locales, enjeu très important pour le futur?
Je pense que c'est des enjeux déjà importants pour le présent. Aujourd'hui, quand on regarde le niveau de développement de nos communes, quand on regarde tous les besoins des populations, il y a tout un travail à faire en termes d'assainissement de nos communes, en termes de foncier urbain. Aujourd'hui, le lotissement de nombreuses localités est problématique. C'est toute la question aussi de l'administration communale, être en capacité de délivrer en temps et en heure des documents administratifs aux populations, permettre à ces administrations, à ces autorités de pouvoir jouer leur rôle de développeur. Là, donc, on tend en termes de recevoir des ressources publiques. Voilà, et je pense qu'il y a toute une réflexion à mener sur la décentralisation. Des maires se retrouvent sans ressources, sans capacité de créer de bons partenariats pour pouvoir développer leur localité. Or, c'est là que doivent se trouver les enjeux. Le principe de base, ce n'est pas tant « élisez-moi, élisez-moi ». C'est qu'une fois élu, on ait les moyens de travailler et que les communautés puissent poser des questions à leur maire et lui demander quel usage il a fait des ressources dont il a disposé. C'est un peu tout ça aussi qui a besoin d'être véritablement mis en place et discuté.
En Enjeu donc pour le président, enjeu aussi pour les élections présidentielles à venir, non, de 2025?
Oh, peut-être pas, ou peut-être. On peut dire que c'est déjà un test grandeur nature de ce que doivent pouvoir être les élections présidentielles. Mais je pense que les enjeux ne sont pas les mêmes. Je crois qu'au niveau local, c'est beaucoup plus la question de est-ce qu'on a choisi la bonne personne avec le bon carnet d'adresses, avec le bon réseau pour pouvoir travailler à développer notre localité. Voilà.
Je vous remercie, Dr Séverin Kouamé.
Merci beaucoup, M. Soro.
Invité de la rédaction, le sociologue et enseignant-chercheur à l'Université de Boaké, Dr Séverin Kouamé, répondait aux questions de Soro Adams. Et c'est la fin de cette édition, le rappel des titres. Le projet de loi relatif à la révision de la Constitution a été adopté à la majorité des membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale réunie hier mercredi. Les 9 députés de l'opposition qui se sont abstenus dénoncent le droit d'amendement que ce projet donne au président de la République. Et à partir de cette année, le service civique doit pouvoir traiter 14 000 jeunes en leur inculquant un bon comportement face à des passifs de la vie comme l'échec scolaire ou encore des fléaux comme la drogue, d'après Touré Mamadou, directeur général de l'Office du service civique national, invité hier mercredi de la tribune d'échange Tout savoir sûr.